Vous écoutez France Culture.
Métro Châtelet, tu es à l'ouest.
Bon voyage, messieurs, dames. Merci pour la musique. Excusez-moi pour le dérange. Bon voyage.
Vigipirate.
France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Banc qui s'est tenu au Mans les 15, 16 et 17 novembre dernier sur le thème « Repousser les frontières ».
Et nous interpellerons tous ceux qui auront un comportement.
Préfecture, police, Roissy, Air France.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau.
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée.
Aujourd'hui, 8e émission... Les contours de la science avec Jacques Lévy, géographe.
Jacques Lévy, on est très heureux de vous accueillir maintenant. Vous savez que c'est quand même, il était temps que dans un forum sur les frontières, juste avant la séance conclusive, on donne la parole à un géographe. Vous êtes donc géographe et on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes spécialiste des dynamiques donc géographiques, des réseaux, des territoires, non seulement à l'échelle française, mais aussi plus largement et surtout européenne. Vous êtes de ceux qui font toujours le lien entre la géographie, l'enseignement et la citoyenneté. Vous êtes quelqu'un qui est très engagé dans les débats publics, dans les débats politiques. Vous pensez que la géographie a son mot à dire dans ces débats-là et qu'on ne l'entend pas toujours assez. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui est récemment paru qui s'appelle « Réinventer la France », qui est paru chez Fayard, hein, je crois, il y a quelques mois. Donc vous êtes un géographe à la fois très exigeant et en même temps combatif. Et de livre en livre, vous exhibez ce que vous considérez comme les erreurs, les illusions ou les erreurs d'échelle qui continuent de travailler non seulement notre imaginaire collectif, mais aussi de glorieuses institutions comme l'INSEE, que vous ne manquez, manquez jamais l'occasion de dégratigner ou en tout cas de critiquer. Et vous martelez le fait que pour vous, on a du mal aujourd'hui à penser à partir justement de lignes claires, que nous nous faisons souvent une conception erronée de l'espace, une conception même très datée de l'espace, donc reflétée souvent par des cartes faussées, voire fausses. Or, et c'est un peu l'idée centrale qu'on retrouve souvent sous votre plume, pour vous, l'espace doit être considéré comme un bien public. Et la façon dont nous nous représentons les territoires et leurs frontières doit être envisagée comme centrale pour dessiner les contours de ce qu'on pourrait appeler une démocratie authentique. Pas de démocratie, selon vous, Jacques Lévy, sans une géographie citoyenne. Pas d'égalité ni de fraternité sans une justice spatiale. Voilà. Merci de m'avoir laissé vous présenter.
Merci
beaucoup.
Oui, merci et merci de l'invitation. Je suis ravi d'être ici, très honoré. Bon, jusqu'à présent, on vous a séduit, convaincu, on vous a fait rire. Moi, je vais sans doute vous endormir un peu. Pour la raison que, jusqu'à présent, la notion de frontière a été utilisée de manière métaphorique. Nous utilisons beaucoup des métaphores spatiales et nous avons énormément de mal à nous en échapper d'ailleurs. Pourquoi s'en échapper? Mais la frontière, c'est un objet au départ fondamentalement humain, social. C'est certes plus généralement une ligne qui sépare, qui divise, qui crée en fait deux espaces à partir d'un et qui les distingue. Mais si on prend son sens quand même le plus courant, c'est une réalité qui est le produit d'intentionnalité au singulier ou au pluriel, donc une intentionnalité coopérative, complémentaire, quand disons la frontière peut plutôt être vue comme une porte, mais aussi conflictuelle quand la frontière est plutôt une ligne de front. Et en fait, la plupart des frontières, même quand elles sont des portes, ont commencé par être des lignes de front. Donc il y a, de ma part, un peu contraint d'ailleurs par le rôle que, le rôle du non-métaphoriste que je suis obligé de jouer ici, bien malgré moi, parce que les métaphores, c'est plus drôle. Donc, le rôle de celui qui va vous parler au premier degré, hein, c'est toujours sinistre de se limiter au premier degré, mais en fait, c'est un peu ce que je suis obligé de faire. Donc, je vais essayer de parler du concept de frontière avec, dans un contexte où, en fait, les métaphores spatiales, c'est aussi de l'espace. Donc, on est environné... si on regarde le champ sémantique, disons, du mot frontière, par un mélange de métaphorique et de non métaphorique. Et il me semble que souvent, dans le débat public, notamment sur le mot frontière, qui est extrêmement chaud, en Europe en particulier, mais pas seulement, on a des échanges entre le métaphorique et le non métaphorique. Le métaphorique prétendant souvent s'appuyer sur le non-métaphorique, c'est pour ça que du coup, il y a une composante éthique dans le genre de choses que nous, les géographes, ou disons les sciences sociales de l'espace, pouvons dire, c'est de dire à ceux qui utilisent la frontière de manière métaphorique, êtes-vous sûr, de leur poser la question, êtes-vous sûr que vous tirez la bonne métaphore du référent que vous utilisez ? Alors c'est pour ça que je commence, il y a trois moments dans mon petit exposé, les deux suivants seront associés à l'idée de justice spatiale, comme vient de le dire Jean Birnbaum, c'est une de mes préoccupations actuelles, mais dans un premier temps, je voudrais un peu préciser ce que pourrait être la frontière par rapport à d'autres notions proches, mais néanmoins différentes. Je pars de textes qui ont animé le débat public. Donc ça, c'est un texte de Régis Debray qui lise une argumentation paradoxale en disant que quand on supprime les frontières, à ce moment-là, on entre dans un monde où personne ne pourrait échapper aux exécuteurs de fatwa, aux kidnappeurs de la CIA. À peu près, enfin un peu plus tard, dans la campagne électorale présidentielle, la dernière en France, On a eu des discours assez fournis du candidat Nicolas Sarkozy et aussi de son conseiller, qui était donc des formules plus nettes encore, utilisant la frontière d'une manière métaphorique, en disant en gros que les pauvres, les faibles ont besoin des frontières alors que les riches peuvent s'en passer ou faire semblant de s'en passer. Et puis, je termine par une formule que Christoph Blocher, qui est le leader populiste de l'UDC en Suisse, qui est le premier parti électoralement, qui nous donne une espèce de clé pour comprendre ces énoncés pas si simples qu'ils n'en ont l'air. Il se trouve qu'en allemand, le mot le plus courant pour dire « limite », quand on dit « les enfants n'ont plus de limites »,« les gens ne respectent plus les limites », c'est le mot « Grenze » qui veut dire « frontière ». Et donc, ça facilite le déplacement, c'est ce que fait constamment Christoph Blocher, quand il dit, par exemple, « nous vivons à une époque où les Grenzen ne sont plus respectés ». Donc vous voyez qu'il utilise à la fois une métaphore, c'est son point de départ, pour revenir à son sujet, parce que lui, il est contre l'immigration, il est contre la libre circulation, donc il veut bien revenir à la composante non métaphorique de la frontière, mais en utilisant la métaphore de la limite qui, en allemand, se prête particulièrement à ce déplacement. Alors, ce que je veux dire à partir de là, c'est qu'on a intérêt à réfléchir, à poser un peu le débat. Qu'est-ce que c'est une frontière? Qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, le passage entre continuité et discontinuité peut être discontinu ou continu, ce qui est assez vertigineux. Ben, déjà, l'opposition entre les mots continu et discontinu, ben, il est discontinu. Hein. Le mot continu et le mot discontinu ont une différence très facile à voir. Mais ce qu'on nous a montré aussi, c'est qu'il y a des relations entre continuité et discontinuité qui sont continues. C'est-à-dire des moments où on ne sait plus si on est déjà dans le découpage, dans la topologie, ou si on est encore dans la topographie. Enfin, j'utilise ces mots dans des sens un peu différents de leur sens habituel, enfin, surtout le mot topographie, mais pour dire que, pour indiquer l'idée d'une continuité spatiale. Et en fait, toute la question des limites, est là. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de limites qui méritent d'être pensées sous la figure du continu, tandis qu'on en a d'autres qui peuvent et qui méritent d'être pensées sous la figure du continu. Donc, ce tableau, qui est une espèce de vocabulaire de base, avec mon ami Michel Lussault, qui, je crois, a participé au forum de l'année dernière, ou d'il y a deux ans.
Ouais.
Nous avons produit un dictionnaire, la deuxième édition assez modifiée vient de sortir, dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, et nous pensons que la formalisation par les mots, c'est utile, le fait que c'est un peu le péché habituel des sciences sociales d'utiliser des mots dans des sens différents, y compris parfois dans le même texte. Nous essayons justement de faire un peu de police épistémologique et donc de donner au même mot un seul sens. Et donc ce petit tableau très simple qui croise la question de la limite et la question du style spatial interne aux objets nous permet de comprendre que ce que la géographie traditionnelle et souvent d'ailleurs le sens commun identifie comme le seul type d'espace, c'est-à-dire ce que j'appelle ici le pays, donc un espace continu avec une frontière franche, eh bien, ce n'est qu'un cas particulier d'espace, et on peut dire même que globalement les territoires, hein, donc des espaces à métrique continue à l'intérieur, en fait sont des espaces beaucoup plus de l'ordre de la représentation, du projet, du mythe, parce qu'en fait ces espaces contiennent une infinité de points et que l'infinité de points on ne sait pas très bien faire concrètement dans la gestion, hein. Quand vous voulez contrôler un territoire, par exemple que vous êtes policier, vous ne faites pas coucher les policiers sur toute la surface, vous avez un poste de police, un point, et vous organisez des patrouilles, des lignes, qui sont d'ailleurs des lignes éphémères, parce que évidemment, dès que vous avez passé un endroit, vous allez dans un autre, donc c'est un réseau que vous fabriquez et pas un territoire pour vous donner l'illusion, enfin une illusion rationnelle, que vous fabriquez du territoire. Donc l'essentiel, en fait, de ce que nous faisons avec l'espace, c'est soit des réseaux fermés, qui ont effectivement, là, on peut dire des frontières, mais c'est aussi des rhizomes. Là, j'emprunte le terme à Deleuze et Guattari, mais en lui donnant un sens un peu plus précis, disons, dans un autre cadre, plus exactement, parce qu'il est précis dans leur cadre à eux, c'est-à-dire d'un réseau dont on ne peut pas fixer clairement les limites. Hein. Eux-mêmes ont utilisé la métaphore biologique, botanique du rhizome et un système de racines qui défie la limite entre un individu et un autre individu, puisque donc, les rhizomes sont des systèmes de racines partagés entre plusieurs plantes. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être le rhizome, en fait, l'espace le plus banal, celui, par exemple, de nos relations. Hein, si vous essayez de localiser les gens que vous connaissez d'une façon ou d'une autre, bien vous verrez que la limite est extrêmement floue. Bien sûr, ça commence par vos proches, métaphore spatiale, mais ensuite, il y a la boulangère du coin, il y a nous, là, que vous voyez et que vous ne reverrez peut-être plus jamais. Il y a des gens que vous croisez l'espace d'un clic sur Internet. Donc, en fait, les limites de votre espace relationnel sont extrêmement floues. Donc, ce sont ce que j'appelle dans le tableau des confins et non pas des frontières. C'est-à-dire que si on utilise une image mathématique simple, ce ne sont plus des lignes, mais des surfaces. Donc, voilà, je dirais, hein, bien sûr, on peut contester ce que je dis, mais le paysage des espaces que nous côtoyons, il est comme ça, c'est-à-dire que la frontière stricto sensu, hein, elle n'est qu'une petite partie de toutes les relations de limites que nous pouvons rencontrer dans les espaces effectifs. Alors, maintenant, je vais essayer de montrer comment la frontière peut à la fois être antithétique avec l'idée de justice, mais aussi utile à l'idée de justice appliquée à l'espace. Donc là, évidemment, il y a une ellipse énorme dans tout ce que je dis, c'est de justifier ce qui ne va pas de soi, l'association entre espace et justice. Y a-t-il une composante spatiale de la justice? Je pense que oui. Hein, donc vous pouvez vous référer à Réinventer la France, qui est à la fois un essai engagé, comme le disait Jean-Bernard Baume, mais qui est aussi une application théorique du concept de justice spatiale à un cas qui est l'espace français. Donc c'est un débat, évidemment, que j'aimerais bien mener. Hein. Là, je passe. Donc, Voilà une carte des communes françaises, 36 000, et il y a beaucoup de frontières, au point que, d'ailleurs, vous voyez l'effet visuel de cette multiplication des frontières, c'est que le noir qui est utilisé pour la limite fait territoire d'une certaine façon, hein, c'est-à-dire qu'il fait surface. Beaucoup de frontières, peu de justice, parce que la frontière va séparer ce qui peut-être ne devrait pas l'être. Ce que je dis avec cette formule du zonage à l'apartheid, séparer l'inséparable, c'est qu'il existe une continuité intellectuelle entre des activités de séparation qui semblent être orientées vers le développement, qui visent un développement, qui visent un mieux-être de l'ensemble des membres d'une société, et puis l'apartheid que vous connaissez bien, c'est-à-dire ces Africanais, en tout cas une partie d'entre eux, qui se croient habités par une mission divine et qui considèrent qu'eux sont les premiers occupants des territoires où ils sont et qui doivent tenir à l'écart des membres de civilisations inférieures. Et donc là, on n'a pas de mal, disons, à voir comment, par exemple, le découpage à l'intérieur d'une ville des quartiers blancs et des quartiers noirs, avec des no man's land, avec des frontières au sens classique du terme, c'est-à-dire des points de passage permettant le contrôle, et l'interdiction à un certain nombre de gens de franchir ces frontières, bon, on n'a pas de mal à comprendre que ça ne fait pas forcément de bien à la ville, puisque la ville, elle est censée tirer son avantage du fait qu'elle est une utopie d'un espace à zéro dimension, du point, c'est-à-dire avoir le maximum de choses qui interagissent entre elles, de choses et de gens, dans le minimum d'étendue. Donc là, c'est assez clair. Mais ce qui m'a frappé quand je suis allé successivement à Johannesburg à la fin de l'apartheid et à Los Angeles, c'est qu'il y a une ressemblance entre une ville donc fondée sur l'apartheid et une ville comme les villes, disons, comme les villes des États-Unis qui sont apparues pour l'essentiel avec l'automobile. Il y a un rapport qui est dans la séparation, notamment la séparation des fonctions. Si vous êtes à Los Angeles dans un lotissement, enfin dans un espace consacré plutôt résidentiel, avec plein de petites maisons bordées de pelouses et beaucoup de rues pour les desservir, vous n'avez aucun commerce. Vous n'avez aucune autre fonction que la fonction purement résidentielle, strictement résidentielle. Et si vous voulez aller à un commerce, vous devez changer d'espace, franchir une frontière, donc qui va vous mener, par exemple, dans les avenues principales, où là, vous allez avoir des commerces, y compris des commerces de proximité auxquels vous allez en voiture. Or, ces villes du type Los Angeles sont des villes qui ont été conçues dans l'esprit du mouvement moderne en urbanisme, hein, dont la charte d'Athènes et Le Corbusier sont les principaux repères, emblèmes, avec l'idée de penser la ville, en fait, sur le modèle industriel, c'est-à-dire comme une usine ou comme un ensemble d'usines, avec l'objectif que si on donne à chaque lieu une fonction et une seule, on va améliorer l'efficacité de cet espace. Donc, on peut dire aujourd'hui, enfin, disons, on peut s'appuyer assez facilement sur un consensus des urbanistes contemporains pour dire que Le Corbusier et la charte d'Athènes n'ont rien compris à ce qu'est une ville, et que du coup, tous les systèmes qui en sont les sous-produits, hein, comme notamment la notion de zonage, hein, le fait d'attribuer une portion d'espace, une fonction et une seule, c'est-à-dire d'exclure en fait une multitude de fonctions comme un acte volontaire, politique, qu'on croit utile, ce sont des conséquences, je dirais, de cette approche. Et aujourd'hui, le mouvement de l'urbanisme contemporain, celui qui vise à créer de l'espace public, celui qui vise à créer de la mixité, du mélange, il s'inscrit en opposition avec le zonage. Alors, un petit exemple, c'est ce qui se passe en Cisjordanie, où les autorités israéliennes, dans un contexte qui n'est pas favorable à une colonisation pure et simple, fabrique des objets spatiaux assez originaux qui utilisent, par exemple, les hauteurs Il peut y avoir deux couches d'espace superposées qui ne communiquent pas, ce qui est assez inhabituel dans les espaces courants. Il fabrique beaucoup de cassures, de petites frontières discrètes, qui sont souvent des mottes de terre, des blocs de béton, mais qui vont modifier considérablement les systèmes des déplacements des habitants palestiniens de la Cisjordanie. Et puis, à une autre échelle, ils fabriquent des découpages, des fragmentations, certains disent des bantoustans, où on voit que, finalement, l'espace palestinien, à force d'être fragmenté, ne peut plus exister en tant qu'espace, justement, en tant que réseau fonctionnel. Hein. C'est ce que j'ai appelé la topologie furtive qui crée un spatiocide, hein, une destruction de l'espace palestinien. Donc on voit bien comment beaucoup de frontières, ça peut tuer l'espace. Donc un niveau, je dirais, élémentaire de la justice, la simple possibilité que des habitants d'un espace puissent fonctionner et faire sur cet espace et faire fonctionner cet espace. Inversement, on peut dire que quand il y a une communication entre des couches spatiales superposées, là, on peut s'approcher de la justice. Hein. Au fond, la frontière, classiquement, c'est une juxtaposition. Hein. Deux pays qui se rencontrent à une interface qui est la frontière. Mais il y a d'autres manières de mettre en contact les espaces. Il y a l'emboîtement, qui est aussi très classique. La justice dans l'emboîtement, c'est le fédéralisme. Nous en sommes assez loin, je crois, en France, mais ça va venir. Et c'est vrai aussi à l'échelle mondiale, bien sûr. Et puis, la justice dans la superposition, hein, nos espaces ont des couches et elles communiquent plus ou moins bien. Par exemple, vous prenez le train, vous arrivez à une gare, vous étiez dans le réseau ferroviaire, grâce à la gare, qui est un commutateur, vous entrez dans un espace qui est celui de la ville. Donc, la question de partager le même espace, elle est essentielle. Et ce qui m'oriente vers les frontières justes. Je pense qu'il est important de se rendre compte que les frontières ne sont pas seulement géopolitiques. C'est justement ce que cette tradition de l'échelle unique en France nous gêne pour mesurer. Dans les pays fédéraux, il y a des frontières qui sont à l'intérieur de l'État géopolitique, qui sont très importantes. Nous avons tendance à considérer que la frontière entre la France et le reste du monde, elle est incomparable avec les frontières à l'intérieur de la France. Et pourtant, elles le sont. Donc la souveraineté ne se réduit pas à la majesté, pour utiliser le vocabulaire de Leibniz. D'autre part, il y a un problème de correspondance, justement de co-spatialité, entre l'espace politique et l'espace de la société civile, de la société supposément non politique. Si vous avez des espaces qui ne coïncident pas, ça veut dire que, en fait, vous allez avoir un pouvoir d'un espace qui intervient sur un autre sans que, dans un système démocratique, les habitants d'un autre espace puissent avoir leur mot à dire. Donc, ils sont influencés par un pouvoir extérieur sur lequel ils n'ont pas prise. Et là, récemment, vous avez peut-être vu que le Sénat a décidé de permettre dans les intercommunalités en France aux communes, à une minorité de communes, d'empêcher que les décisions d'urbanisme, notamment permis de construire, appartiennent à l'intercommunalité. Or, quand vous prenez des décisions dans un petit morceau d'espace sur la population, vous pouvez changer le peuple de votre petite commune et ça a des effets sur le reste, pour des raisons évidentes à comprendre. Si vous mettez des gens là, ils ne seront plus ailleurs. Et donc, on voit bien comment cet impérialisme n'est pas forcément l'impérialisme du grand sur le petit. Hein, en France, il y a beaucoup de petites structures qui ont un pouvoir sur un espace pour lequel ils n'ont pas été désignés par le suffrage universel. Et enfin, dernier aspect, ça nous entraînerait sur la question de l'immigration, de l'autorisation de circuler à l'échelle mondiale et de s'installer d'un pays à l'autre. Je vous invite à relire les textes de Kant sur la différence entre citoyenneté et hospitalité. Le fait que chacun puisse circuler sur toute la planète librement ne veut pas dire que chacun est membre de toutes les sociétés dans laquelle il passe, en tout cas pas de la même façon que les autres. Et donc la question des systèmes de solidarité qui font que vous n'êtes pas seulement un touriste mais vous êtes un citoyen, elles sont assez essentielles. Et donc tant qu'il n'existe pas un système de solidarité qui fait que le monde est une société de plein exercice, la question de la différence entre hospitalité et citoyenneté se pose. Je conclurai en disant que une formule quand même assez simple pour essayer de s'approcher de la justice en utilisant les frontières quand elles sont nécessaires, c'est de s'approcher de la vérité. Hein. Donc, si on voulait organiser l'architecture politique française sur la base de la réalité de l'urbanisation, de la configuration de l'espace, ça donnerait cet archipel avec des îles plus ou moins grosses, mais qui couvrent l'essentiel de la population. Et pourtant, on n'a pas ça. Et à l'injustice qui relève de la vérité, du manque de vérité, s'ajoute l'injustice qui relève du manque de lisibilité. Hein, ce qu'on appelle le millefeuille territorial, c'est justement le fait qu'on a une multitude de couches avec chacune leur système de frontières et que du coup, la lisibilité du citoyen qui lui permet de dire « je discute d'un problème avec des gens qui vont s'y atteler », cette discussion n'est pas possible. Hein, et donc, la citoyenneté, elle est entravée par ce phénomène de millefeuille territorial. Et pourtant, toutes les questions importantes se jouent à ces échelles-là et sur ce type d'espace, à ces métriques-là. Donc, on aurait bien intérêt à essayer de rapprocher l'espace des solutions de l'espace des problèmes. Dernière phrase, ce serait bien si la frontière devenait le pointillé subtil sur la carte des devenirs. Donc parfois, il faut abattre les murs et parfois les reconfigurer. Merci.
Merci.
Durant le débat qui va suivre, les spectateurs posent des questions à Jacques Lévy, mais également aux deux intervenants de l'émission d'hier, Jean-Claude Amezen et Alain Prochiantz, qui avaient également abordé le thème des contours de la science.
Monsieur Prochian a parlé de Benoît XVI à propos de l'univers, mais pas sauf erreur, à propos de la continuité et discontinuité entre l'animal et l'homme. Et c'est sur ce point que je voudrais l'interroger. À ma connaissance, la hiérarchie catholique aujourd'hui admet l'évolution depuis Jean-Paul II, même si Darwin n'a pas encore pas sa statue dans les jardins du Vatican. Mais en maintenant deux solutions de continuité, d'abord à l'origine de l'humanité, où il est censé y avoir eu un couple unique auquel Dieu a attribué une âme immortelle, qu'il a ensuite transmis à ses descendants, et pour leur malheur qu'il a transmise souillée. Et puis à l'origine de chaque être humain, puisque cette âme est censé attribuer dès la conception, y compris lorsqu'elle se passe en éprouvette. Et ça intéresse aussi, je crois, Monsieur le Président du Comité national d'éthique, puisque la question de l'expérimentation sur les embryons congelés en déshérence n'est toujours pas résolue définitivement. Voilà.
D'ailleurs, merci. C'est Dieu qui guide la main qui tient la pipette, comme chacun sait dans cette situation. Donc il n'y a pas de débat là, c'est forcément Dieu qui le fait. Non, plus sérieusement, chacun a ses croyances. Dans l'histoire de Benoît XVI, il ne s'agit pas de vivants, hein, il s'agit de Galilée en l'occurrence. C'est-à-dire le discours de la Sapienza est un discours, foi et raison, sur la question de la réhabilitation de Galilée, qui au fond faut voir, en 1630, quand même, 30 ans plus tôt, Giordano Bruno était quand même brûlé. Donc, on comprend que Galilée était un peu prudent. Mais ça ne s'est pas trop mal passé, somme toute. Hein, il est retourné près du couvent où sa fille était enfermée. Et puis, finalement, ça n'a pas été trop dramatique, moins dramatique que pour Giordano Bruno. La question du vivant est une autre question. Moi, je dirais, si vous voulez, qu'aujourd'hui, bon, pour les questions de l'homme, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, Jean-Claude Amezen a parlé de Wallace versus Darwin. Alors, c'est typiquement ce que vous dites, c'est-à-dire que Darwin, dans la descendance de l'homme, étend à Sapiens le matérialisme évolutif, hein, c'est-à-dire qu'il est le produit de l'évolution, alors que Wallace se refuse à faire le pas. D'ailleurs, il n'y a pas que Wallace qui se refuse à faire le pas. Lyell, qui est d'une certaine façon le maître géologue de Darwin, ne va pas non plus jusque-là. Donc Darwin est au fond celui évidemment, il y avait Huxley et tous les gens autour, celui qui est allé au-delà, qui a fait rentrer l'homme dans l'animalité sur le plan de l'évolution des espèces, et qui est devenu athée. D'une certaine façon, le drame de Darwin, c'est « Dieu n'existe pas, comment vais-je le dire à ma femme hein, ?» Car Emma était profondément religieuse. Mais elle est quand même enterrée à Westminster. Alors, ça, il y a des contradictions, même chez les plus grands. Donc, mais aujourd'hui, il ne le voulait pas. Oui, mais ça vous arrive souvent, même quand vous ne le voulez pas, des trucs. Donc, la question aujourd'hui, je dirais, se place, et vous avez bien raison de le dire, en interpellant Jean-Claude à Meisen, aujourd'hui, la question se passe du côté du vivant. C'est-à-dire que si, du côté de la physique, les choses sont rentrées dans l'ordre, encore que si les physiciens pensent que l'univers est écrit en langage mathématique, ça reste peut-être de l'ordre du religieux, c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, du côté des vivants, il y a encore un vrai conflit entre, je dirais, la science et la religion. D'ailleurs, votre intervention nous le fait parfaitement sentir. Donc, voilà. Mais ce conflit n'est pas un conflit réglé. Et de cette façon, il n'a pas besoin d'être réglé. Après tout, nous sommes dans des sociétés démocratiques. Il y a des gens qui sont élus, il y a des comités nationaux d'éthique. Et ce que pense un tel ou un tel, finalement, doit être subsumé dans une décision démocratique. Il y a des parlements, etc. Donc, on n'a pas le droit de tout faire. Mais on a le droit d'avoir des positions personnelles. La mienne, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'âme dans l'embryon à quelque stade que ce soit. Voilà.
Jean-Claude Amezen.
Oui, je crois que la question que vous posez est intéressante. C'est une question qui préoccupait peu avant sa disparition à des grands évolutionnistes du XXe siècle, Stephen Jay Gould. Comment faire coexister une démarche scientifique qui explore ce que nous pouvons comprendre, tester et explorer de la réalité avec toute une série de représentations du monde qui ne concernent pas la science hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une hypothèse n'est pas testable, elle n'est pas du domaine de la science. Et donc je crois que la science ne répond pas aux questions métaphysiques, comme leur nom l'indique. Le conflit vient souvent, je dirais, d'une tentation de démarche totalitaire, c'est-à-dire qu'au fond, la métaphysique veut expliquer le fonctionnement testable du monde, ou la science, comme certains scientifiques, veulent prouver, par exemple, comme Richard Dawkins, l'inexistence de Dieu. Donc je pense que c'est deux façons différentes d'appréhender la réalité, et tant qu'elles ne se superposent pas, c'est-à-dire que l'une ne répond pas aux questions formulées dans le domaine de l'autre, eh bien elles peuvent coexister, comme toutes nos façons d'appréhender la réalité existe. Mais tout le problème a été, et Alain Prochain se disait tout à l'heure, la question de la littéralité. Pour moi, en tout cas, les textes religieux n'expliquent pas littéralement le monde. D'ailleurs, si on regarde tous les textes religieux et tous les textes de spiritualité, ils n'ont pas permis en eux-mêmes, j'allais dire, de découvrir les antibiotiques, de comprendre l'astrophysique. Donc je pense que leur ambition n'est pas là. Et de la même façon, la science ne répond pas à la question du sens de l'existence ou de ce qui dépasse notre capacité à comprendre le monde. Et donc je crois que la question, c'est la coexistence. Sur la question de l'embryon, depuis 30 ans, depuis sa création, le Comité consultatif national d'éthique a tenu le raisonnement suivant. La protection d'un embryon est quelque chose d'important, est une responsabilité collective. Quand pour des raisons médicales, et je vous rappelle qu'il y a 30 ans, il n'y avait absolument pas d'idée qu'on puisse faire de la recherche sur les cellules embryonnaires comme aujourd'hui. À partir du moment où, pour des raisons médicales, parce que l'embryon a été congelé, que les parents ont disparu, ou se sont séparés, ou qu'ils ont déjà eu des enfants et qu'ils ne veulent pas, et qu'il n'y a pas d'autres couples qui demandent cet embryon, eh bien, à partir du moment où, pour des raisons médicales qui n'ont rien à voir avec la recherche, on décide de détruire l'embryon, se refuser à faire de la recherche à partir des cellules de cet embryon détruit pose un problème éthique. C'est-à-dire se refuser d'augmenter ses connaissances par rapport à un acte qu'on considère comme légitime est quelque chose qui pose un problème éthique. Donc ça a été la position du comité depuis 30 ans. Et avec d'ailleurs ce paradoxe, si je peux terminer là-dessus, que depuis très longtemps, lorsqu'il y a interruption de grossesse, et donc mort d'un fœtus à un stade de développement qui est beaucoup plus important qu'un embryon de quelques jours, eh bien, le fait de pouvoir faire des recherches à partir des cellules de ce fœtus qui est mort, On ne demande qu'une absence d'opposition dans la loi de la mère. On ne demande même pas l'avis du père. Et on ne demande pas une autorisation. On demande une absence d'opposition. Pour un embryon qui a quelques jours, on a, pendant très longtemps, jusqu'à cette année, considéré que même si le couple est d'accord, c'était interdit, puis interdit après dérogation. Donc l'idée du comité, c'est que créer un embryon pour faire de la recherche pose un problème éthique majeur, ça existe dans certains pays, mais qu'à partir du moment où on détruit un embryon pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la recherche, s'interdire de faire de la recherche, c'est un peu penser que l'ignorance est un garant du caractère moral d'un acte.
Merci. Merci. Alors, on va prendre d'autres questions, interventions.
Oui. Sur cette question. Vous avez déjà répondu en partie à la question, mais je voudrais poser cette question sous un autre angle. Monsieur Amezen a situé la distance de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Or, une distance suppose deux limites, en l'occurrence une origine, la Terre, et une autre limite, ou une frontière, entre guillemets, ou une frontière de l'univers. Dès lors, cela pose la question de l'au-delà, de cette limite de l'univers, au-delà tant sur le plan physique que métaphysique. Et par ailleurs, M. Prochantz, comme M. Amezen, n'ont finalement parlé que d'évolution, ce qui rappelle ce peut-être postulat, que rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et finalement, cette réflexion qui est, je crois, de Voltaire, mais la limite, c'est la réflexion qui nous importe. Et je ne puis penser que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Je sais que vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais cette question des limites de l'univers, de l'au-delà de cette limite, entre guillemets, me pose question. Merci de vos réponses.
Merci. Non, ce que je veux dire, c'est que, vu de mon petit observatoire d'espaces qui sont moins différents de la pratique courante que ceux de l'espace de l'univers, c'est évident, on voit déjà que les problèmes des limites de notre imagination et le fait que nous avons encore un espace mental newtonien, c'est-à-dire avec une boîte qui préexiste et des choses dedans qui sont prédéterminées par l'existence de la boîte et qui sont, la boîte étant impossible à modifier en fonction du mouvement des choses qui sont dedans. Donc ça, cette vision de l'espace, effectivement, fait que quand on essaye d'imaginer la forme de l'univers, bon, c'est un gros débat et un gros sujet pour les physiciens, bien sûr, mais je veux dire, même quand on essaye simplement, nous, de se la représenter, on aboutit à des paradoxes. Et donc, il me semble que la simple observation des choses que nous voyons dans notre espace nous permet de comprendre une chose très simple et très, donc, non plus newtonienne, mais leibnizienne, c'est-à-dire que l'espace, il est fabriqué par les choses qui sont spatialisées et qui ne sont pas dans une boîte. Et donc Leibniz, quand il s'oppose à Newton, il dit que un espace vide, c'est pas un espace. Donc oui. Il n'y a d'espace que pour autant qu'il y a des rapports de distance entre des réalités qui sont séparées ou rapprochées par cette distance. Donc c'est vrai que c'est un peu moins évident, mais déjà, ça fait tomber quand même un premier rideau d'impossibilité sur l'imaginaire de l'espace astronomique. Ça devient un peu moins angoissant.
Oui, mais Jean-Claude Amezen.
Oui, je crois que c'est toujours la chose. Là où la science progresse, c'est pas seulement en essayant de comprendre ce que l'on sait que l'on ne sait pas, c'est en général en découvrant ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Et donc, quand vous parlez d'un au-delà de l'univers, encore une fois, au début du XXe siècle, avant Henrietta Leavitt, on pensait que la Voie lactée, avec peut-être quelques poussières au-delà, c'était les limites de l'univers. Et la question aurait été, qu'y a-t-il au-delà ? Aujourd'hui, la réponse, c'est énormément de choses. Et on pensait qu'il n'avait pas bougé depuis son début. Et aujourd'hui, on sait qu'il ne cesse de se transformer. Donc, je crois que la question n'est même pas tellement qu'y aurait-il au-delà de ce que nous percevons aujourd'hui. La question est que notre vision même de ce qu'est l'univers, je dirais, est à la fois fantastique, mais nous rend humbles si on s'aperçoit qu'il y a un siècle, il y a deux siècles, il y a trois siècles, on le voyait totalement différemment. Je dirais, la démarche scientifique n'est pas la quête d'une réponse, et Alain le disait tout à l'heure, n'est pas la quête d'une réponse définitive une fois pour toutes, elle est une méthode d'exploration qui essaye de rendre compte de ce qui est testable, explorable, mesurable, et qui, à un moment donné, est la meilleure façon que l'on a collectivement de décrire ce que nous appelons la réalité.
Merci.
Je voudrais poser ma question à Mézène, monsieur Mézène. Donc, je partage votre point de vue quand vous avez parlé de Galilée, donc, qui a dit que la Terre tourne, ça a été quand même une révolution. Puis Darwin qui a dit l'homme descend du singe, ça n'a pas été évident.
Descend pas du singe.
Ensuite, il y a une troisième. Alors, la question que je pose, c'est la question que je pose aux scientifiques et aussi au président du Comité national d'éthique. Et donc, la grande avancée, c'est l'informatique. Et donc, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je veux dire qu'actuellement, comme dit votre voisin qui parle d'un cerveau un peu trop gros, où la science peut pénaliser, et donc finalement vous êtes président du comité d'éthique, finalement la science, hier on a parlé de science-fiction, est-ce qu'on peut parler de science-fiction, puisqu'on peut tout faire apparemment, et donc heureusement qu'il y a un frein qui s'appelle le comité d'éthique, et la question que je vous pose, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une troisième révolution, cette révolution actuellement, c'est la science qui a fait de grands sauts, et finalement ça va la pénaliser, parce que s'il n'y a pas de frein, la science a apporté des progrès, mais il y a aussi le côté pessimiste si on ne fait pas attention. Le cerveau est trop gros. Et Lévi-Strauss est arrivé à plus ou moins cette conclusion sous une autre forme. C'est un anthropologue qui a dit qu'on a étudié les sociétés sauvages et finalement ces sociétés sauvages sont un peu mieux organisées que la société dite civilisée. Oui. Merci.
Merci.
Je vous en prie. Écoutez, les inventions, les révolutions n'ont pas attendu la floraison d'avancée du XXe siècle. L'invention de l'écriture, il y a 8000 ans, a profondément transformé l'humanité. Pouvoir dialoguer avec des gens qui sont morts depuis 2000 ans, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je crois, et on pourrait dire la même chose de l'écriture, Ésope disait que la langue est la meilleure et la pire des choses. Léonard de Vinci dessinait des machines de guerre pour essayer de subvenir à ses besoins en même temps qu'il faisait de la science et qu'il faisait de merveilleuses œuvres d'art. Donc le problème, c'est pas tant qu'il faut des freins, à mon sens. Le problème, c'est justement de choisir parmi tout ce qui est possible ce que nous considérons individuellement et collectivement comme souhaitable dans le souhait de respecter chaque personne. Et quelles que soient les inventions et la compréhension du monde que différentes cultures ont eues à différents moments, ce problème s'est toujours posé. Hein, quoi qu'on puisse faire, et aujourd'hui on dit, tiens, nos ancêtres pouvaient faire peu, mais je veux dire, à chaque époque, on savait qu'on pouvait faire beaucoup plus et comprendre beaucoup plus qu'à des époques différentes, ou en tout cas on le croyait, on l'imaginait. Le problème a toujours été de savoir ce qu'on fait. Avec du feu, on peut se réchauffer, on peut survivre et on peut brûler des gens sur un bûcher. Donc le problème, ce n'est pas de freiner le feu. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et donc je crois que la réflexion éthique et la réflexion collective, et c'est au fond le sens même d'une démocratie, c'est de réfléchir parmi tout ce qui est possible, et parfois d'ailleurs, parce que les contraintes sont importantes, en prenant en compte tout ce qui, à un moment donné, est impossible ou paraît impossible. Comment est-ce qu'on transforme ces possibilités encore une fois, en respect pour tous. Et je vous rappelle que dans l'histoire de nos cultures, quand je disais tout à l'heure nous et les autres, vous savez qu'à Athènes, tout le monde était égal, sauf les femmes, les étrangers et les esclaves, et que le droit de vote des femmes en France n'a que 70 ans. Hein, donc mettre à profit de chacun toutes les possibilités, c'est un travail qui mérite une réflexion collective approfondie.
Merci. Alain Prochian, si vous voulez également...
Je voudrais juste faire un petit commentaire. Nous sommes nés il y a environ 200 000 ans en Afrique. Le premier foyer de Sapiens devait avoir environ une dizaine de milliers d'individus. L'évolution est extrêmement difficile parce que le départ ne devait pas être facile. Vous avez vu ce que c'est qu'un Sapiens à la naissance et comment il était entouré. Je parle de la nature, justement. Donc, Sapiens, c'était d'abord un animal technique. Sapiens ne s'en serait jamais sorti s'il n'avait pas inventé la technique et aussi la société. Donc c'est un truc qui est dans le destin de Sapiens d'être un animal technique. Donc voilà, donc on est arrivé au bout de quelques 200 000 ans à un succès évolutif incroyable. Quand vous imaginez qu'on est 6 milliards d'individus, qu'on en a mis 2 sur la Lune, c'est quand même, aucune bête ne l'aurait fait. Donc ça, c'est... Alors, ça va nous envoyer dans le mur, c'est possible. Ça, c'est un destin tragique. Je vous l'ai dit, on est 6 milliards sur ce caillou-là, 2000 km sur son axe, 100 000 autour du soleil, il y aura forcément un accident, c'est inévitable. Il faut le savoir. Mais c'est très difficile de limiter ce développement technologique, même si on peut imaginer qu'il va un jour nous envoyer dans le mur. Vous savez, je disais souvent, l'ordinateur a prolongé notre cerveau comme le vélo avait prolongé nos jambes. Ben voilà. C'est ça justement le tragique du destin humain d'une certaine façon. Hein. Alors on peut contrôler, on peut limiter, il y a les mathématiques, puis il y a les mathématiques financières. J'entendais hier un débat justement sur France Inter, assez intéressant de ce point de vue. Il y a la physique, et puis il y a l'invention de la bombe atomique, et puis il y a le génie génétique, Ça, c'est clair, ce que disait Jean-Claude est vrai, mais je crois que c'est une illusion de penser qu'on va arrêter cette évolution technologique qui fait partie de notre patrimoine depuis le départ, hein, depuis le premier caillou lancé ou taillé depuis l'invention du feu, sans lequel vous ne seriez pas là. Ce serait dommage.
Oui, mais pour reprendre ce que dit Alain, il y a ce qu'on en fait. Mais regardez, depuis 70 ans, heureusement, la production et la compréhension du maniement des armes atomiques s'est fait dans un contexte dans lequel on ne les a pas utilisées. Il y a des développements techniques, au contraire, qu'on ne met pas à la disposition des gens. Je veux dire, s'il y a 2 millions de personnes atteintes du virus HIV qui meurent chaque année et 2 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de pneumonie alors qu'on a les antibiotiques, c'est parce qu'on ne développe pas assez et qu'on ne distribue pas équitablement nos avancées technologiques. Donc la question, c'est pas seulement ce qu'on produit, c'est comment on s'en sert, voire comment on décide de ne pas s'en servir.
Merci. Alors passons vite à une autre question.
Alors c'est une question pour Jacques Lévy. Est-ce que dans votre tableau synthétique sur les frontières, il manque pas une dimension? La dimension du point, parce qu'on le voit d'ailleurs dans l'affiche du forum, quand on dit repousser les frontières, on trace une frontière, alors qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte, malgré la perception qu'on a, parce que c'est vrai que quand on y pense frontière, on pense à la ligne, pourtant dans le vécu, la frontière, elle se vit par des points dans les gares, dans les aéroports, ou même hier et avant-hier, quand on parlait de Lampedusa, comme une frontière exemplaire pour l'Europe, ça reste un point sur une carte. Donc voilà, est-ce que vous pouvez développer quelque chose là-dessus, sur la frontière comme point ?
Merci.
Oui, effectivement, mais les frontières s'actualisent toujours dans des réseaux, en fait. Hein. Donc la frontière, disons, si on imagine une partition du monde en état, un pavage du monde en état, avec des lignes qui les bordent, en réalité, d'ailleurs, vous savez que les États ont mis extrêmement longtemps à donner un minimum de réalité à l'idée de frontières linéaires. C'est seulement avec des gros moyens, et encore, ça suffit pas. Lampedusa le montre. Ça augmente considérablement le coût du passage. Hein. Lampedusa le montre aussi. Mais même aujourd'hui, avec d'énormes moyens, c'est pas évident de faire vivre cette linéarité. Donc effectivement, il y a des portes qui sont les points. Et ces portes peuvent être bordées de lignes qui sont un petit peu floues. Mais c'est vrai que de plus en plus, vous avez complètement raison, l'actualisation de la frontière, elle passe dans les aéroports, d'autant plus qu'il y a des ensembles en Europe qui correspondent à des espaces sans frontières, à des échelles où c'est pas tellement l'avion qui est le moyen de transport principal. Du coup, effectivement, la frontière devient intercontinentale, et donc c'est le point de passage, qui est quand même d'ailleurs un peu une ligne, hein, en réalité. Hein, on appelle ça ligne de contrôle, mais disons que à l'échelle de la ville, c'est le point aéroport qui actualise la notion de frontière, et cela plus qu'avant, effectivement.
Merci.
Oui, ce sera aussi une question pour Jacques Lévy, sur la question frontière et inégalité, parce que, je ne parle pas au plan international, mais au plan européen et français, ce qui apparaît notamment sur la dernière carte, c'est cette croissance et cette sorte de pavage de l'espace national par de grandes métropoles. Or, ce qui m'interpelle, c'est que, un, ce processus de concentration des populations, des moyens technologiques modernes dans les grandes métropoles, est considéré comme un élément indépassable, et par des économistes qui considèrent que la Creuse, c'est fini, la France, ce sera le développement dans une douzaine de grandes métropoles, le reste, il faut laisser tomber pour être brutal. Et donc, par rapport à cela, c'est également partagé par une partie des courants politiques. Et puis, même du point de vue scientifique, géographique, c'est quelque chose qui se renforce chez les économistes, chez les géographes. Donc, cette idée, le redressement, la croissance, ce sont exclusivement les grandes métropoles. Or, moi, ce qui me pose question, c'est comment concevoir dans ce cadre-là un développement territorial juste sans ces discontinuités ou ces inégalités, y compris sur le territoire français.
Merci.
Vaste question. Donc, j'ai 30 secondes pour y répondre. Non,
40.
Ça 40. OK. Effectivement. Bon. La production de la société par elle-même, elle se fait grâce à des interactions. Et ces interactions supposent un contact. Il y a trois grands moyens de gérer la distance. C'est la mobilité, la télécommunication et la coprésence. Et la ville, c'est la coprésence. Donc la ville, elle a un avantage comparatif qui a des effets évidemment différenciateurs. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas beaucoup de choses au même endroit, donc faire des villes, ben, vous ne pouvez pas avoir cet avantage. Et donc, du coup, on ne peut pas imaginer un espace qui accepte les avantages de l'urbanité sans créer une différence entre le plein et le vide. Hein, si toute la population mondiale avait été réunie avec la densité de Paris intramuros, ça tiendrait sur un peu plus de la moitié de la France. Donc, ce vide et ce plein sont une différenciation productive, pas forcément une inégalité. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'en France, le problème est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, l'Île-de-France produit 30% du produit intérieur brut, produit. Hein, c'est elle qui le produit. Et en fait, par le biais de péréquation, de redistribution, elle n'en touche que à peu près la part de sa population, un tout petit peu plus, un peu plus de 20%. Donc ça veut dire qu'il y a une masse énorme d'argent qui se retrouve ailleurs, dans des conditions pas forcément idéales d'ailleurs. Mais donc l'idée qu'il y ait une redistribution, elle est effectivement tout à fait logique et acceptable. Simplement, ce qu'on voit aussi, c'est que la région Île-de-France n'a pas les moyens de traiter les inégalités en son sein, hein, que par exemple, un élève de Seine-Saint-Denis, eh bien, on dépense moins d'argent que la moyenne nationale pour son éducation, ce qui est quand même un peu ennuyeux. Donc effectivement, votre point de départ, ne pas transformer les différences en inégalités, il me semble que c'est un point de départ de la discussion. Maintenant, aux citoyens de dire comment.
Bonjour, moi aussi j'aurais une question pour Jacques Lévy. Donc, vous parliez de la forte division qu'il existait en France entre les différentes organisations territoriales comme les communes, les régions, les départements. Est-ce que vous ne pensez pas que cela résulte d'une politique étatique qui vise justement à préserver l'importance de l'État français en France? Et donc, un peu comme l'expression dit, diviser pour mieux régner.
Oui, vous avez bien répondu. Hein. Et donc, depuis la constitution de la Troisième République, 1875, il y a un compromis, un accord entre l'État central et puis ce qui existait à l'époque et qui s'est beaucoup transformé, c'est-à-dire les notables ruraux qui voulaient défendre leur existence à une époque où l'urbanisation commençait à se développer. Donc on a construit un édifice constitutionnel qui fait que, par exemple, les communes, même sans habitants, elles continuent d'être un lieu de pouvoir, de voter pour les sénateurs. Hein, donc on a en gros infléchi une courbe séculaire, enfin depuis la Révolution française, en disant que la démocratie ne porterait plus sur les habitants, mais sur les kilomètres carrés. Ce qui est un choix intéressant de philosophie politique. On en est encore là.
Merci. On va prendre deux toutes dernières et brèves questions, s'il vous plaît. Allez-y.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, je vais être encore plus au ras des pâquerettes. Là, Jacques Lévy disait qu'il était au premier degré. Moi, je vais être encore le cran en dessous. Bon, l'urbanisation Je pense à, par exemple au ghetto, à l'hôpital psychiatrique village, au kibbutz, etc., à la cité radieuse, etc. Il y a eu différentes formes de vie communautaire avec les frontières, les clôtures, le monastère, enfin, etc. Et pour peut-être avoir une idée un petit peu plus optimiste, je pense que la frontière peut être entendue au niveau d'un lien. Hein. Et par exemple, j'évoque deux petites choses. La première, c'est l'échange de maisons. C'est-à-dire que finalement, des gens changent de maison d'un pays à un autre. Et c'est quelque chose qui se développe et qui résonne de façon assez, moi je dirais, joyeuse, l'échange de maison. La deuxième chose, c'est une petite association dont je ne veux pas être, prosélyte, qui est partie du lendemain de la guerre en disant « si les gens se connaissent mieux, ils se battront moins ». Et je suis venu au Mans dans ce contexte où je suis allé chez une personne que je ne connaissais pas et où j'ai passé deux nuits gratuitement, hein, et où on a pu discuter, puisqu'on avait peu de temps, on avait deux jours, de choses importantes. Et je crois que ces deux petites choses, par exemple, l'échange de maisons, ce type d'association qui est représenté dans 92 pays, hein, donc c'est quelque chose d'international, qui va permettre peut-être que la frontière devienne un lien.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, vous avez dit que je serai en dessous du premier degré. Vous êtes comme Barthes, vous avez montré que le degré zéro, il n'y a rien de plus excitant. Surtout quand on annonce qu'on peut dormir chez les gens gratuitement et pour parler avec eux. Enfin voilà, c'est très. Vive le degré zéro. Merci monsieur. Jacques Lévy, alors, vous aurez le mot de la fin.
En une minute, je ne vois pas tellement de frontières en fait dans ce que vous avez dit. C'est plutôt justement la justice sans frontières, c'est la capacité d'auto-organisation. Du social en société, de faire ce saut de discontinuité, hein, qui est quand même important. La société, c'est pas juste la somme de ses composantes, c'est un système. Et donc, vous montrez concrètement comment ça marche, et notamment à l'échelle mondiale. Donc là, il y a cette idée de Peter Sloterdijk, à qui je laisse la conclusion de mon propos, en tout cas, c'est l'idée qu'il y a des bulles, hein, et que finalement, la mondialisation, on peut la définir comme le fait qu'elle permet une mise en contact directe entre l'individu, qui semblait être une toute petite entité, une entité faible, et puis l'échelle mondiale. Et que ce qui gêne les éléments intermédiaires, les barrières que sont les États, les communautés, finalement, ils se trouvent affaiblis. Ils n'ont pas du tout disparu, ils se défendent âprement, mais ils se sont affaiblis. Et que donc, le monde que vous décrivez, c'est plutôt, je dirais, un monde sans frontières, où chaque individu se sent dans le monde comme chez soi.
C'était le forum Le Monde, Le Mans, avec aujourd'hui Jacques Lévy, Jean-Claude Amezen et Alain Prochians. Débat animé par Jean Birnbaum, prise de son Georges Thau, réalisation Isabelle Huel. Demain, dernière émission, dialogue entre Jean-Claude Milner, linguiste et philosophe, et Jacques Rancière, philosophe.